émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel. Pour votre émission du jeudi soir de 19 à 20h, c'est Judaïsme Pluriel. Ce soir, la méthode Feldenkrais, un regard inhabituel sur la santé. Avec Nathalie Toiti. À mon premier rendez-vous avec notre invitée pour préparer cette émission, elle m'a dit « Je vous invite à une séance collective pour aller au-delà des mots et des explications. » Je l'ai fait. Et c'était nécessaire, voire même indispensable. Il sera ce soir beaucoup question de mouvement, de perception du corps dans sa globalité, du cerveau qui en fait partie, du ressenti, de l'organisation du mouvement. L'éducation somatique, du grec soma, corps, d'une manière générale, vise à se réapproprier le corps en mouvement. Et la méthode Feldenkrais, élaborée par Moshe Feldenkrais, basée sur le concept de plasticité cérébrale, est la seule au monde qui soit bien structurée, la seule au monde qui soit bien protégée et la seule au monde qui continue à se développer dans le monde entier. Nathalie Toiti, notre invitée, enseignante de la méthode, nous parlera d'abord de Moshe Feldenkrais, puis bien sûr de la méthode. Et j'espère que nous aurons suffisamment de temps pour tout développer. Bonsoir Nathalie et merci d'être avec nous ce soir. Merci pour ces différents rendez-vous que tu m'as donné pour préparer l'émission, de cette séance à laquelle tu m'as invité et qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup mieux ce dont nous allons parler. Puis merci pour tous les documents que tu m'as donnés.
Ben, c'est nécessaire pour mieux comprendre aussi, d'avoir beaucoup d'éléments. Merci de m'avoir invité à Judaïque FM.
C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Alors, comme tu nous l'avais suggéré, on va commencer par parler de Moshe Feldenkrais.
Alors, on pourrait faire, je ne sais pas, au moins 10 émissions sur Moshe Feldenkrais, tellement qu'il a une vie riche, que c'est un personnage à part entière, une personnalité très forte. Il est né en 1904 à Slavuta, qui est à l'heure actuelle en Ukraine, dans le territoire, dans l'Empire russe. Sa famille va déménager, il a 12 ans, en Biélorussie, à Baranovitch. Et bien entendu, c'est un siècle, bien entendu, le début du XXe siècle est un siècle agité.
Très agité, oui.
Voilà, il va fuir en fait la Russie et il va partir avec seulement quelques affaires en poche. Il est déjà aussi très doué. Feldenkrais parlait plusieurs langues. Il a eu une éducation à la fois traditionnelle juive parce que il est d'une famille. Voilà, son grand-père est dans la lignée des rabbins de Pinhatz de Koretz. Et il a une éducation aussi tout à fait, on pourrait dire, classique bourgeoise. Il fait de la musique, il apprend les langues. Et en fait, ce jeune homme part... pour échapper un petit peu à son monde, il part non pas à l'aventure, mais vraiment pour sauver sa peau.
Et il a quel âge, là?
Il a, je crois, 14 ans. Oui. 14 ans. Voilà, il va rejoindre Cracovie. Grâce à une émission télé qui est passée sur I24, qui est une télévision franco-israélienne, j'ai même moi-même appris qu'il est passé par la Pologne, par Cracovie, qui rencontre une troupe d'acrobates qui qui vont lui apprendre des choses dont il servira plus tard dans le mouvement. Il va être suivi par beaucoup d'enfants. Il va être déjà admiré, en fait. Déjà admiré si jeune. Il va atteindre la Palestine sous mandat britannique à l'époque.
Il va mettre 6 mois, je crois.
Il va mettre 6 mois de voyage, oui, à pied, mmh, avec, bien entendu, beaucoup d'adversité et toujours faire face à cette adversité. Toujours être capable de rebondir, et avec une détermination certainement assez intense. Mmh. Il arrive donc en Palestine sous mandat britannique, il n'a pas un sou. Il va faire différents métiers, entre autres, il sera maçon aussi. Mmh. Et une de ses premières étapes cruciales pour la méthode, c'est que il va se rendre compte que dans le danger de la vie, quand on doit se défendre avec quelqu'un qui a des armes et que soi-même on n'en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, le mouvement intelligent, c'est la première chose intelligente à faire quand on est vraiment plus fragile, c'est de prendre ses jambes à son cou.
Et de fuir,
tout à fait. Et après, il s'est rendu compte que beaucoup de gens mettaient, par exemple, devant un couteau, levaient le bras ou tournaient le dos à l'adversaire, ce qui nous rend encore plus vulnérables. Mmh. Il va s'intéresser, bien entendu, aux arts martiaux, au jiu-jitsu. Et il va commencer à créer des prises très personnelles, écrire un premier livre sur le jiu-jitsu et commencer même à créer des prises pour se défendre dans des situations très concrètes et très réalistes. Voilà, ça c'est une période de sa première vie, on va dire. Il va être remarqué pour son intelligence et sa réussite scolaire. Et il va être aidé pour partir poursuivre ses études en France. Mmh. Il fera le lycée Louis-le-Grand, finira ses études d'ingénieur, passera son doctorat.
Doctorat en physique, c'est ça ?
En physique.
Je voulais juste dire une petite chose, si
bien
tu permets.
Bien sûr.
Quand il était en Israël, il a commencé à s'occuper d'arts martiaux. Il a été formateur à la Haganah.
Oui, c'est ça. Oui,
hein,
oui,
c'est
ça.
Important.
En fait, je pense que c'était un petit monde, mmh, et qu'il y avait vraiment un transfert des savoirs,
oui,
un partage des savoirs. Mmh. Et c'est vrai qu'il va enseigner très tôt ses prises.
Oui, oui.
Ce judo personnel, on pourrait dire. Voilà. Donc, il est à Paris. Il parle pas français. Il mettra 1 an pour pas apprendre français et suivre des études quand même d'un haut niveau.
Oui.
Et il parlera vraiment français. Et son doctorat, il va le faire au laboratoire de Joliot-Curie, qui reçoit, je crois, 2 ou 3 ans auparavant, le prix Nobel pour la recherche nucléaire. Donc, il fera partie, il créera le premier accélérateur de particules. Donc, il est dans une équipe éminente, vraiment éminente. Et il va même donner des cours de judo à l'Alliance israélite de Paris. Il va donner des cours de judo à Joliot-Curie. Mm-hmm. Et pour nos auditeurs, si ça les intéresse, il y a des archives de l'INA,
oui,
où on voit Joliot-Curie faire un combat dans un dojo, bien sûr, dans une salle, avec Moshe Feldenkrais.
Ah oui.
Voilà.
Je crois que c'est lui qui a introduit et qui a créé le club de jiu-jitsu à Paris. Et c'est peut-être, enfin c'est ce que j'ai pu lire,
oui,
que c'était peut-être une des premières ceintures noires d'Europe.
Tout à fait. En fait, il entend parler que certaines personnes, il n'était pas le seul à s'intéresser aux arts martiaux, bien sûr, que certaines personnes vont inviter Jigoro Kano.
Oui, Jigoro Kano, il faut dire, c'est le champion de judo japonais.
Un champion de judo japonais, mmh, qui était très critiqué parce qu'il avait une petite taille, il paraissait frêle. Mmh. Donc déjà, on voit aussi le goût pour Feldenkrais pour des choses non conventionnelles, on pourrait, mmh, dire, pour son ouverture d'esprit,
oui,
pour sa largeur de pensée. Jigoro Kano, ils vont se rencontrer. Jigoro Kano va être très surpris des prises de Feldenkrais, de sa manière de travailler le judo, de, mmh, sa manière de l'enseigner. Et il va lui dire, ça m'intéresse beaucoup, mais je comprends pas, c'est pas du tout, on va dire, orthodoxe ou conventionnel,
oui,
c'est pas dans les règles habituelles du judo japonais.
Mmh.
Et il va dire à Feldenkrais, va lui proposer, prenez un couteau, prenez une arme et faisons un combat. Et quand il va voir comment réagit Feldenkrais, comment il lui prend le bras, comment il le fait tomber, comment il dira de lui que c'est vraiment un très grand enseignant. Il le mettra un petit peu, on peut dire, en avant. Mmh. Il aura la première ceinture noire d'Europe. Il fondera le premier club de judo en France. Et malheureusement, les nazis, mais aussi avec l'aide d'un Français, par le gouvernement de Vichy, son nom va être effacé. Et c'est, il n'y a pas très longtemps que le nom de Feldenkrais s'est réhabilité.
Oui, mais tant mieux, et qu'on fasse cette émission pour que les gens le sachent.
Tout à fait, voilà. Oui, tout à fait.
Alors, on en était à pratiquement l'arrivée des nazis à Paris, quoi.
Voilà, des nazis à Paris. En fait, Feldenkrais s'est vraiment concentré sur son travail, sur sa recherche. Et c'est 1940, les nazis sont aux portes de Paris. Et Joliot Curie va l'aider à avoir un passeport pour passer en Grande-Bretagne. Mmh. Il est marié, pour l'anecdote, il va pousser sa femme dans une brouette qui avait un problème de hanche congénitale.
Ah bon ?
Ah oui, c'est très épique. Mmh. Il fuit avec deux valises métalliques dans lesquelles il y a évidemment de l'eau lourde,
voilà.
Voilà, pour les Britanniques. Il rencontrera Albert Einstein, mmh, Feldenkrais et beaucoup d'autres très grands chercheurs scientifiques dont je vous avoue j'ai oublié le nom. Il va prendre le dernier bateau qui part de France pour la Grande-Bretagne. Vraiment, c'est in extremis. Et le coup du sort lui en veut. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va quand même avoir en tous les cas, plus après, mais jusqu'à une grande période de sa vie. On rappelle, il est né en 1904, donc il est déjà pas tout à fait plus un très jeune homme. Et arrivé en Grande-Bretagne, à cause de son nom, à sonorité un peu germanique, voilà, tout à fait, il est interné dans un camp de prisonniers. Mais heureusement, les amis scientifiques connaissaient son arrivée. Donc en fait, il va être, on va le chercher. Heureusement, ça a très peu duré. Et il va travailler protégé pour l'amirauté. Sur la côte ouest de l'Écosse, il va créer le sonar.
Sonar très important à l'époque.
Très important pour repérer l'ennemi, oui, au niveau des sous-marins.
Guerre sous-marine.
Voilà, il y avait une guerre sous-marine aussi. Et voilà, ça c'est une partie importante de sa vie. Je dirais que la méthode aussi à ce moment-là, il jouait beaucoup au foot. Il va avoir un accident au genou. Son accident, il va faire en sorte de plutôt s'adapter. Mais avec un genou très faible, avec une perte musculaire, avec des moments où il sent qu'il n'est pas tout à fait à l'aise sur ses appuis. Enfin, voilà, il cherche. Mmh. Et c'est une autre blessure en glissant qui va lui faire comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Parce que sa deuxième blessure devient, sa jambe forte devient sa jambe fragile. Et du coup, la première jambe fragile commence à lui redonner du support, mmh, à lui redonner de la stabilité, à lui redonner de la mobilité. Et donc, il va se rendre compte qu'on a une capacité d'autorégulation, d'auto-guérison, et que notre cerveau n'est pas séparé de ce qui se passe dans notre rapport à l'équilibre, dans notre rapport au travail musculaire, qu'il est capable de traiter l'information et de nous donner des solutions.
Il faut dire que s'il en est arrivé là, c'est que la médecine conventionnelle lui a dit « vous ne retrouverez pas votre mobilité ».
C'est ça.
Alors donc, il s'est mis à chercher.
Ou c'était un grand risque d'être opéré,
oui,
mais il aimait trop le mouvement,
oui,
il tenait trop à jouer au foot, à continuer le judo. Donc, c'était quand même quelqu'un au physique. Il faut savoir, il était petit, 1m63, très, très baraqué. A vraiment un torse très développé. Il a donc, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui avait besoin d'exprimer sa force, sa puissance. Mmh. Voilà. Et en fait, il va, comme c'est quelqu'un qui quand même a à la fois un haut niveau d'études et une très grande curiosité, il va lire les anciens psychophysiciens qui sont les anciens neuroscientifiques du 19e siècle. Mmh. Il va lire les études récentes des années 40, et il va, à partir de là, commencer à écrire un premier livre, L'être et la maturité du comportement, qui est écrit en 1900, je crois qu'il finit de l'écrire en 1947, ou il est édité en 1947. Mmh. Ça, je n'en suis pas très sûre, très exactement. Il va écrire La puissance du moi et il va commencer à développer, on peut dire, des idées. Et aussi, avec la manière dont il a enseigné le judo, c'est aussi une expérience nouvelle de la pédagogie. Est-ce qu'il s'est rendu compte aussi en enseignant le judo que s'entraîner, c'est très bien? Mais à partir d'un certain degré de niveau, de compétence, l'entraînement n'est plus aussi efficace. C'est-à-dire de répéter la même gestuelle ne crée pas forcément le perfectionnement dans cette gestuelle.
On arrive à un seuil.
On arrive à un seuil, tout à fait. Donc lui, il se rend compte qu'il faut un peu se défaire des habitudes, qu'il faut créer des nouveaux chemins, que aussi il se rend compte que, par exemple, si vous... répéter une action de plier le genou, plier le genou, plier le genou, toujours de la même façon avec vous. Ça crée dans le cerveau une zone très fine de représentation. Parce qu'en fait, la manière de faire le mouvement n'est pas subtile. Et il se rend compte que plus on rend subtil un mouvement, plus on le différencie, ça c'est un peu un jargon Feldenkrais.
Non, on comprend, oui.
Plus on le rend... on met les parties qui sont liées à son organisation de mouvement, c'est-à-dire ce que fait le pied, le squelette du pied, la cheville, l'articulation de la cheville, la hanche, les lombaires. Ça va amplifier la cartographie, la manière dont on se représente le genou et on en aura un meilleur usage. Donc en fait, il suffit pas de s'entraîner par une répétition qui n'aurait pas de sens, mais c'est créer du sens dans la manière dont on fait nos mouvements. Et je pourrais ajouter que la méthode n'est pas seulement, là j'extrapole peut-être qu'on va un peu vite,
oui,
mais
la
méthode n'est pas seulement d'intégrer les parties, de mettre les parties ensemble. Il y a tout un travail spécifique, on en parlera peut-être un peu plus tard.
Oui, on va développer ça.
On va développer ça un peu plus tard, voilà.
C'est peut-être à à ce moment qu'il déclare l'impossible devient possible, le possible devient facile, le facile devient agréable et l'agréable devient élégant. Quand il s'aperçoit que justement on peut-être dépasser ce seuil.
Oui, et il se rend compte que l'être humain a toujours un potentiel, surtout si on ne lui demande pas de faire les choses à tout prix. On part de ce qu'on sait faire. Et petit à petit, ce qu'on ne croyait ne pas pouvoir être disponible dans l'action va le devenir. Jusqu'à ce que ça devienne tellement simple qu'on a même oublié qu'on ne savait pas le faire.
Oui. Alors donc, il travaille, etc. Et en 1951, il retourne en Israël.
Tout à fait.
Alors
en Israël... je ne sais pas exactement. En fait, il va continuer de travailler pour l'amirauté.
Oui.
Il va travailler pour les forces, pour le ministère de la Défense israélienne sur la recherche en électronique. Il va pas abandonner vraiment son métier d'ingénieur et de physicien.
Ah, quand même.
Il va quand pas même. L'abandonner.
Parce que j'ai lu quelque chose. Sa maman, la mère juive, lui a dit « Mais pourquoi tu fais cette méthode alors que tu risques d'avoir le prix Nobel ?»
C'est vrai que c'était un très grand chercheur. Il aurait l'accélérateur de particules, participé à l'eau lourde, le sonar, il aurait très très bien pu aller très loin tout à fait. Et elle disait, mais es-tu choisi de faire cette gym? Alors selon les versions, es-tu choisi de faire cette gym? Tu choisis d'être ma sœur? Et ça n'a rien à voir ni avec une gym,
ni avec l'autre,
ni l'un avec l'autre.
On va le voir.
Oui.
Et alors donc en Israël, il s'installe à Tel Aviv. Puis là, je crois qu'il va faire des conférences parce qu'il commence à être connu.
Voilà, il commence à être connu et il va rencontrer aussi certains chercheurs qui s'intéressent aux fonctions motrices. Comment elles ont à voir avec notre pensée, comment elles ont à voir avec l'expression de notre potentiel. Il va rencontrer plusieurs chercheurs et ces chercheurs vont commencer un peu à le pousser à plus exprimer sa méthode. Il y a un chercheur, Monsieur Baniel, qui va l'inviter à donner ses premiers cours le jeudi soir dans son appartement. Et c'est comme ça qu'il va commencer à enseigner à Tel Aviv. Mmh. Mais il y a aussi une anecdote qui peut vous intéresser, c'est que on peut l'apprendre aussi dans un très joli documentaire qui est passé sur Arte, sur Ben Gourion, sur sa vie. Ben Gourion avait beaucoup de lumbago, avait, on va dire, vécu une vie un peu comme Moshe Feldenkrais, c'est-à-dire...
Il se ressemble un peu, d'ailleurs.
Et il se ressemble un peu physiquement, oui. Mais aussi pas d'adolescence, la fuite, quitter une persécution. Et Ben Gourion avait aussi une frustration de ne pas avoir développé l'activité physique, de ne pas s'être épanoui un peu dans son corps. Il avait une insuffisance pulmonaire. Il avait beaucoup de lumbago et personne n'arrivait à le soulager jusqu'à ce qu'il rencontre Moshe Feldenkrais. Mmh. Et ce Moshe Feldenkrais, après quelques séances, va non seulement complètement supprimer ses lumbagos, mais va lui redonner une potentialité de geste au point qu'il va faire le poirier. C'est une photo qui va être prise par un journaliste qui sera diffusée, je sais plus si c'est le New York Times ou Times Magazine. Le Figaro Le Figaro aussi. Et c'est une, maintenant, les gens peuvent voir à Tel Aviv, sur la plage, une sculpture de Ben Gourion. Voilà.
Alors, justement, dans l'émission dont tu parlais, sur I24, j'ai enregistré un petit passage.
Parfait.
Où il parle. On va écouter ce petit passage. Donc, c'est la voix de Feldenkrais.
Nous allons faire maintenant une chose unique. Unique pas parce qu'elle est unique pour les hommes. C'est une chose qui devrait être habituelle. Seulement, malheureusement, personne ne se sert ni de sa tête, ni de son cœur, ni de son corps, comme tous les autres. C'est-à-dire qu'on perpétue savamment, scientifiquement, l'ignorance.
Bien, voilà, c'était donc un enregistrement de Feldenkrais.
Alors, si je peux
oui, je t'écoute.
Me permettre un petit commentaire de cette phrase, c'est vraiment intéressant parce que ça montre de ce qu'il pensait de l'être humain, de sa dignité, de sa capacité à aller plus loin. Et il disait souvent qu'on continue de penser avec nos schémas un petit peu fixes. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pas très français, je pense, on continue à avoir des idées qui tournent en rond, un peu une cérébrébrulation comme ça, comme oui. Si ça tournait dans la marmite. Mais il disait que la vraie santé, c'est de créer un vrai équilibre, et un vrai équilibre, c'est de pouvoir créer sa vie, c'est de pouvoir à chaque fois trouver une autre manière de penser, une autre manière de faire. En fait, c'était plus largement d'avoir du choix. Mais on s'entête à répéter des schémas qui nous font que très savamment, on répète les mêmes choses.
Très bien.
On vient seulement confirmer un schéma appris. Et lui, il était pour se donner plus de choix.
Bien, alors voilà, on a parlé de Feldenkrais. Et si tu veux bien, maintenant, on va parler de toi, Nathalie, puisque on a l'habitude de présenter l'invité donc à nos auditeurs. Alors, pardon, il y a une chose qui m'a frappé chez toi, c'est que tu es constamment en recherche. Et alors là, on comprend pourquoi Feldenkrais t'a séduit. Tu es en recherche et par exemple, tu as fait de la danse. Hein, tu as commencé par faire de la danse pendant d'ailleurs très longtemps. Et tu t'es posé la question, qu'est-ce qui fait danse? Qu'est-ce qui fait mouvement? Voilà, alors on voit déjà ta façon d'aborder les choses. Alors disons que tu as été danseuse contemporaine. Et puis artiste chorégraphe, donc tu as fait tous les métiers de la danse, hein, finalement. Et la transmission en fait toujours partie de tes démarches. Voilà. Tu as enseigné la danse aux enfants dans des projets pluridisciplinaires, musique et arts plastiques, à Vaux-en-Velin, à des comédiens, à un public adulte pendant plus de 25 ans. Tu as également enseigné à l'Université Lyon, dans le cadre de la formation initiale et continue du Centre de formation des musiciens intervenants de 2000 à 2005. Je lis mes notes. Voilà. Finalement, il s'est passé après quelque chose, mais c'est que ça a été la rencontre avec Feldenkrais. Alors là, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé.
En fait, c'est une rencontre donc avec cette méthode de manière, on peut dire, inattendue. J'enseignais la danse, justement, à Vaux-en-Velin, avec des enfants, je crois que c'était un petit groupe de 4-6 ans. Et j'avais une manière de travailler autour de comment ils socialisent, de comment ils expérimentent le mouvement sans passer d'abord par un préalable technique. Et tout simplement, la chef de mon service me dit « T'as une manière d'enseigner, on dirait la pédagogie Feldenkrais. » Alors comme tout le monde, je rassure tout le monde, j'ai dit « Felden quoi ?» J'ai pas bien compris le nom. Et elle m'a fait rencontrer une praticienne de Lyon avec qui enseigne toujours, avec qui je suis toujours en contact, on est amis. Et j'ai suivi un cours collectif que j'avoue, j'étais danseuse, mais j'avais pas de problème de mobilité, j'avais pas de douleur. Je suis pas une danseuse qui me suit par chance ou je sais pas par quel autre hasard, pas beaucoup blessée. Et ça m'a intéressée, mais je peux dire, ça m'a paru quelque part un peu naturel, presque banal. Je me suis dit bon, d'accord. J'ai reconnu qu'il y avait une pédagogie de la bienveillance, de l'attention à soi, de laisser chercher les gens, de les laisser être autonomes et de leur dire vous savez de vous-même, vous savez déjà quelque chose de vous-même. Voilà, on a enseigné ensemble, enseigné le Feldenkrais et j'enseignais la danse derrière, on a fait des ateliers. Et puis je peux dire qu'un jour j'ai eu une limite de mouvement sans douleur, comme je vous l'ai raconté quand vous êtes venu me rencontrer à mon local. Une limite pour laquelle j'ai aucune explication, même encore aujourd'hui, aucun souvenir, pas un entraînement forcené particulier. Et je me suis dit, la méthode parle de mobilité, allons voir cette praticienne. Elle s'appelle Véronique, son prénom. Et je vais la voir et je lui explique mon problème et je lui montre que je peux plus tourner ma hanche ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Donc, techniquement, une perte de la rotation interne et externe, sans aucune raison et sans aucune douleur. Et donc là, je suis allée vers une séance individuelle qu'on appelle intégration fonctionnelle, je connaissais rien. Et j'étais complètement séduite parce qu'elle me dit « mets-toi dans la position que tu veux ». J'ai pu être dans la position que j'ai voulu. Elle a travaillé sur des micro-mouvements très subtils, très doux. On va pas tout raconter. Non, et surtout que j'en ai un souvenir précis, c'est assez impressionnant comme quoi ça s'adresse vraiment à la perception et à la sensation qu'on enregistre vraiment ça profondément. Et debout, au bout d'une heure, j'avais retrouvé toute ma mobilité. Alors vraiment, j'étais un petit peu estomaquée, comme on dit. Et j'ai dit, merci beaucoup, c'est impressionnant ce travail, c'est très nouveau, très différent de ce qu'on peut connaître. Et je rentre à la maison et je devrais préparer des cours. Et entre autres, pour ceux qui connaissent la danse, il y a tout un travail du bas de jambe, les battements tendus, enfin voilà, de la technique. Et c'est pas trop ma tasse de thé, j'aime pas du tout ça, à vrai dire. Et là, j'ai eu une créativité, une disponibilité, c'est devenu de ce que j'aimais pas trop faire, c'est devenu agréable.
Un lien direct avec ce que tu venais de passer avec
De ce que je venais de vivre. Ouais. Et là, ça m'a vraiment frappé et ça a été une petite graine pour me former quelques années plus tard, quand même 10 ans plus tard, à la méthode. Oui, j'aime bien digérer très lentement.
Oui. Je crois que tu as rencontré même des enseignants pour leur demander leur avis, etc. C'est ce que tu m'avais dit.
Oui, alors quand j'ai décidé d'aller faire la méthode, j'ai été très prudente et j'ai rencontré Myriam Pfeiffer, qui a été une des élèves proches de Moshe Feldenkrais, parce qu'à Tel Aviv, il va enseigner sa méthode d'abord à 13 personnes qui vont suivre tous ses cours, qui vont apprendre la séance individuelle en travaillant sur lui. Donc lui devient cobaye, donc d'une manière à la fois très empirique, par l'expérience, et en même temps il donnait son savoir au milieu de l'expérience. Et ces 13 personnes, c'est ces 13 personnes qu'ont vraiment continué l'enseignement de la méthode et formé des assistants, des formateurs qui aujourd'hui enseignent. Donc il y a vraiment une très profonde lignée. Et j'ai rencontré donc l'une d'entre elles, enfin d'entre eux plutôt, il y avait des hommes, et c'est Myriam Pfeiffer à Paris qui malheureusement est décédée en 2009. Et j'étais très absorbée par son enseignement, tellement absorbée que je me suis pas rendue compte qu'à côté de moi, il y avait Miu Miu, l'actrice Miu Miu. Et j'étais vraiment, vraiment absorbée, complètement convaincue et très heureuse d'avoir fait la formation avec Myriam, dont j'espère un jour il y aura un vrai hommage, un vrai même un livre vraiment qui relate comment elle a amené ce travail Feldenkrais très très loin. Voilà.
Et voilà donc comment tu es devenue enseignante Feldenkrais. Alors il faut pour terminer dire quand même que tu as un diplôme, tu es diplômée, tu as un master de danse et d'un DU technique du corps et monde du soin, c'est ça? J'ai peut-être oublié quelque chose, non?
Non, mais en fait, quand on est dans le monde Feldenkrais, on aime chercher. Donc, ces diplômes universitaires, oui. Parce que je les ai écrits, j'ai écrit des mémoires autour de la méthode Feldenkrais, sont vraiment liés avec une nécessité de toujours... on a un savoir qui a besoin de s'exercer. La méthode Feldenkrais, on la comprend. On la vit, on l'analyse de mieux en mieux, si on l'enseigne, si on la traverse, en fait, on doit pas imiter Moshe Feldenkrais, mais on est obligé d'être chercheur. C'est pas du tout une liste de mouvements et qu'on fait de manière acquise et qu'on répète mécaniquement.
D'ailleurs, il n'existe pas de livre où on dit il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça.
Normalement, il n'y a aucun livre qui existe pour dire ça.
Bon, on va passer à une petite pause musicale que tu as choisie, hein, Nathalie.
Oui.
Alors, c'est quoi?
C'est un titre de l'album Aurora de Avishai Cohen.
Oui.
Voilà, j'ai rencontré cet artiste au Festival de Jazz de Marciac et ça a été un coup de foudre. Mmh. Voilà, je trouve que c'est un vrai alchimiste.
Ça ne m'étonne pas. Voilà. Très bien, on va écouter ça si tu veux bien, Jonathan.
Morenica mi meia, amante. través a mí me aman, me veo con ellos. Morenica, graciosica sos, tu morena, yo gracioso, yo sos pretos tú.
Vous êtes à l'écoute de Judaïsme Pluriel et je vous rappelle que ce soir, avec Nathalie Touati, nous parlons de la méthode Feldenkrais. Alors, si tu veux, je voulais vous dire aussi que si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours téléphoner 37 04 91 37 78 78 et Nathalie se fera un plaisir de vous répondre. Alors, nous avons parlé de Moshe Feldenkrais, nous avons parlé de Nathalie, maintenant parlons un petit peu de la méthode. La méthode Feldenkrais avec tous ses grands principes. Et ça, tu sauras en parler beaucoup mieux que moi.
Alors, c'est une méthode qui est, on ne peut pas l'expliquer en deux mots. Voilà. On peut. Moi, j'aime bien dire aussi que c'est. Elle accompagne toute personne dans un projet d'amélioration d'elle-même vers elle-même. Un projet d'amélioration, ça peut être j'ai perdu de la mobilité, j'ai eu un trouble, un AVC, je me cogne dans les portes et j'ai perdu du trouble de l'orientation. Mais ça peut être aussi j'ai besoin d'être plus disponible, j'ai besoin de me sentir encore en capacité de développement et de découvrir de nouvelles choses. Donc elle a un spectre, on pourrait dire, très très large. Elle s'articule, on peut dire, de deux manières différentes, qui sont corollaires, qui sont pas séparées. C'est le cours collectif, le cours en groupe, qu'on pratique régulièrement de préférence, qu'on appelle prise de conscience par le mouvement.
Voilà.
Et pour la petite anecdote, au départ, Feldenkrais en hébreu l'appelait pas du tout prise de conscience par le mouvement, mais l'appelait shiurim beshilchul ayerolet, c'est-à-dire en français leçon pour l'amélioration du potentiel ou de la capacité humaine. Et pourquoi amélioration de cette capacité? Parce qu'on passe par la subtilité du mouvement et des subtilités que vraiment, quand on pratique pour la première fois, on se dit « mais je ne savais pas que pouvait faire tout ça ». Mais c'est pas faire pour l'exécution, D'accord? C'est pas faire parce que c'est un nouveau mouvement. Mmh. Parce que ça, on peut le faire en dansant, mmh. on peut le faire en faisant du tir à l'arc, on peut le faire en faisant de l'aïkido. On va découvrir de nouvelles choses. Mais c'est comment le mouvement s'organise et comment il a toute cette richesse qui est une infinie richesse en nous. Après, il y a des principes très particuliers, mais...
Alors, tu as dit par contre, et ça c'est quelque chose d'important, tu as dit que cet enseignement... Ben, s'adresse finalement au cerveau. C'est-à-dire que c'est pas ça, comme tu le disais, c'est pas l'étude d'un mouvement pour le mouvement, mais c'est un enseignement qui va s'adresser au cerveau.
Le mouvement, c'est pas un prétexte, c'est un moyen et une finalité. C'est à la fois les deux. C'est-à-dire que par le mouvement et la manière dont on enseigne, nous, le mouvement, c'est des mouvements aussi issus du patrimoine humain. C'est-à-dire notre développement en tant qu'espèce, et notre développement en tant qu'enfant. Donc, il n'y a pas des mouvements spécifiques, c'est pas une technique, c'est pas une esthétique, ce sont pas des formes particulières. Mais vraiment, Feldenkrais a compris comment le mouvement s'adressait au cerveau, et avec des modalités très très précises. La lenteur, mais pas la lenteur n'importe comment, c'est pour sentir des différences, pour que ça s'adresse à comment le cerveau reconnaît à travers cette lenteur des informations neuromusculaires que donnent les capteurs. La différenciation, bien sûr, sentir des différences. Si on sent pas une différence, on peut pas apprendre. Après, des moyens très particuliers qu'on reconnaît que c'est une séance Feldenkrais et c'est pas autre chose. Par exemple, on peut initier le mouvement par différentes parties, mais contrairement à la danse, qui transforme le mouvement et son énergie. Là, c'est vraiment les parties sont là pour mobiliser la colonne vertébrale différemment et ça va encore faire des résonances sur le cerveau. Mais aussi toucher par de la subtilité et de la variation la représentation des cartes neuronales qui sont dans le cerveau.
Alors, ce que tu viens d'expliquer s'appuie sur un grand concept, c'est le concept de neuroplasticité.
Ouais.
Tu voudrais peut-être expliquer en deux mots, pas scientifiquement, on le sait, mais enfin, dire ce qu'est la neuroplasticité.
Alors, si Feldenkrais l'appelait pas comme ça, parce que ce vocabulaire-là n'existait pas,
oui, bien sûr.
Mais il en avait développé plusieurs aspects. Je pourrais le dire d'une manière peut-être simple, c'est que un animal, quand il sort du, plus ou moins tous les animaux, quand ils sortent du ventre de leur mère, on va dire en quelques mois, ils ont un développement du cerveau fini et ils ont beaucoup de comportements acquis. Donc, ils ont une acquisition pour savoir qui est très vite disponible pour manger, survivre, attaquer. Ils sont dans le cycle de leur de l'évolution de leur espèce.
Oui.
Nous, en tant qu'êtres humains, notre cerveau est presque, je crois, à plus de 80%, mais peut-être que je me trompe sur le chiffre, c'est quasi une terre vierge. Et en fait, ça va vraiment, le cerveau va créer des connexions à travers l'apprentissage, à travers ce que le bébé rencontre. Ça va de comment il va dormir, de son environnement, de comment le berceau est tourné, comment il est porté, comment on lui parle, quel vocabulaire il entend, quelle langue il entend, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'on l'autorise à expérimenter. Et ça, le cerveau humain ne cesse de faire ça. Et la grande nouveauté, c'est que je pense encore dans les années 50, on croyait que une fois que l'homme pouvait était autonome,
formaté, on va dire, voilà.
Formé, 18, 20 ans, 25 ans, le cerveau ne bougeait plus. Ce qu'on avait appris devenait, il y avait de l'inné et il y avait de l'acquis.
Exactement.
Et cet acquis était un peu, figé.
Voilà.
Et là, on sait que cet acquis n'est jamais figé, mais qui se fige si on le renouvelle pas. Et que un de nos trésors, c'est de se saisir de cette opportunité de ne cesser d'apprendre. Et en fait, ce que ouvre la méthode Feldenkrais, c'est qu'elle permet au cerveau de se donner du choix par cette manière très particulière de travailler le mouvement. Et ça, des résonances. Alors, bien entendu, il faut en faire un peu. Hein. Je ne dis pas que ça arrive si on n'en fait qu'une fois par semaine, de temps en temps, et qu'on arrête et qu'on reprend. Mais ça a des échos très, très profonds jusqu'au cognitif.
Mmh. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que, finalement, c'est un changement dans la manière d'être au monde. On se modifie à chaque séance.
Tout à fait.
On devient notre propre chercheur. Et justement, je pensais à toi, à ce que tu disais tout à l'heure, où tu avais fait ta séance et tu avais même pas vu que Miu Miu était à côté de toi. C'est parce que peut-être, du moins ce que j'en ai compris, mais tu me corriges, c'est que si vraiment on veut participer à cette séance, on est concentré sur soi-même, on s'écoute, on se cherche, et c'est pour ça que finalement on voit pas trop ce qu'il y a à côté.
Tout à fait, il y a une attention très particulière qui est distribuée vers soi, mais pas de manière nombriliste.
Oui.
Il ne s'agit pas de s'écouter pour s'écouter. C'est-à-dire, on commence à apprendre à repérer ce qu'on sent en soi. Ouais. Alors, au début, on est très surpris parce que le praticien nous guide vers cette perception. Pas trop. On ne sait pas si on sent de l'appui, si on sent un creux derrière la colonne vertébrale, on ne sait pas si c'est... on se juge aussi parce qu'il y a beaucoup de systèmes de croyances, on a été éduqué, on fait des fois beaucoup d'efforts. Un des grands apprentissages, c'est savoir doser l'effort, savoir mettre l'effort juste, et qu'on apprend que trop d'effort est souvent inutile. Inutile à l'action. Donc il y a tout un... C'est vrai qu'il y a une théorie de l'action en Feldenkrais pour améliorer comment on fait et comment on veut le faire. Et c'est pas un... Comment dirais-je? Des concepts qu'on applique, mais c'est des choses qu'on sent et qu'on vit et qui deviennent disponibles pour notre vie quotidienne.
Alors tu m'as passé un petit extrait de la voix même de Feldenkrais. Si Jonathan veut bien nous le faire passer, hein, mais c'est très très court.
Très très court. Voilà, donc.
Tu nous donnes la traduction?
Voilà, je vous donne la traduction et j'avoue, hein, je ne parle pas hébreu, donc c'est une amie qui me l'a traduit. Donc c'est au cours d'une séance Feldenkrais, d'un cours collectif, et il dit « mais pas avec de la vitesse, seulement écouter comment organiser le dos, le bras, ou diminuer l'effort, comment faire pour que ce soit confortable et agréable à faire. » Donc il y a toute une manière de guider le mouvement qui est de guider le comment du mouvement. Donc en fait chacun a une attention très particulière, bienveillante à lui-même, sans jugement. Et c'est la personne qui se donne les réponses à elle-même, pour elle-même. Et sauf si la personne va se faire mal, le praticien n'intervient pas dans le processus de la personne. Il offre le processus à la personne.
Mmh. Oui, je comprends. Et finalement, l'acquis de chacun est différent de l'autre, quoi. Chacun se cherche son propre équilibre, je dirais. Je ne sais pas si c'est équilibre qu'il faut
oui,
dire.
Oui, tout à fait. À la fin d'une séance, si on demande qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous avez perçu, souvent il y a des sensations kinesthésiques très claires. Et il y a des gens qui vont dire « je me sens bien dans mes appuis, j'ai une colonne vertébrale, je me sens plus grand, mon regard est plus haut ». J'ai oublié, il peut y avoir aussi ça, j'ai oublié mes soucis. Alors, bien sûr, ça peut être commun à d'autres méthodes, hein, je dis pas, mais c'est le processus qu'on enclenche qui est vraiment complètement différent et va assez loin. Je pourrais dire aussi à nos auditeurs qu'à côté de cette séance collective, il y a la séance individuelle qui est vraiment à l'adresse, quelqu'un vient avec sa demande et qui... Le praticien n'a pas un protocole déterminé. Il n'a pas des recettes ou de dire pour un mal de dos, c'est ça. Pour quelqu'un qui perd sa latéralité ou son orientation, c'est ça. Pour quelqu'un qui n'arrive plus à rouler, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction d'une observation très très fine, le praticien va trouver la séance qui pourrait être adaptée à la personne.
D'accord. Nathalie, on a une personne qui veut nous parler. Alors, prends le casque et on va l'écouter. On vous écoute. Allô ?
Allô, oui.
On n'entend rien. Oui. Allô.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir, madame.
J'écoute cette émission qui m'a drôlement interpellée alors que je ne suis pas du tout concernée, mais je la trouve très intéressante. Je voudrais simplement savoir le nom de cette méthode. Je n'ai jamais entendu parler et je veux bien.
Alors, c'est la méthode Feldenkrais du nom de son inventeur. Je vais vous l'appeler.
Vous êtes gentil.
F comme Françoise, oui. E oui. Comme Émile, L oui. Comme Laurence, D oui. Comme Daniel, E comme Émile, N oui. Comme Nathalie, tant qu'on voit. Oui. K comme Karine, oui. R comme Roland. Mmh. A comme Aline, I oui. Comme Isabelle et S comme Solange.
Feldenkrais.
Bah écoutez, de rien.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci pour votre appel.
Merci, bonne soirée.
Merci.
Donc, on reprend, tu vois.
Il faut toujours. La pédagogie, c'est aussi de. Comment dirais-je? C'est de répondre, voilà, comme à cette dame, il faut savoir redire, parce que c'est tellement simple, on redit une fois, puis c'est bien.
Il faut dire aussi que peu de gens connaissent cette méthode. Et...
Alors ça, c'est très étonnant, peu de gens connaissent cette méthode, pourtant elle est pratiquée dans le monde entier. Mmh. Il y a des praticiens quasi sur tous les continents, et elle est en train d'être initiée. Enfin, il y a des formations qui sont en train de se monter, comme on dit,
oui.
En Chine. Donc, on aura bientôt des collègues chinois, c'est très drôle.
Ah ouais.
Et donc, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que elle a pas atteint, on va dire, une grande vulgarisation, mais en même temps, elle a irrigué beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux. Mmh. Voilà.
Il me semble, enfin je sais pas, tu vas me le dire, est-ce que justement les Chinois sont assez proches de ces méthodes-là parce que ils ont une médecine différente, ils ont une approche différente du sport.
Alors très sincèrement, je sais pas comment on a demandé à des grands formateurs de venir en Chine. Mmh. Je sais que, en tous les cas, il y a un des filtres qui n'est pas un filtre, mais qui est plutôt un canal de développement, c'est le milieu artistique. Par exemple, il y a des formations au Japon, et il y a beaucoup de danseurs qui font du Feldenkrais.
Ah oui.
En France, c'est Peter Brook qui a invité Feldenkrais.
Ah bon.
Et, voilà, je sais pas si...
Nathalie, le temps passe trop vite.
Trop vite.
Et on n'a pas dit la moitié de ce qu'on devait dire. Alors, je te pose une question. Dire en direct, voilà. Est-ce que tu serais prête à revenir la semaine prochaine?
Bah, écoutez, c'est agréable d'être ici, devant le micro avec vous. Bon. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci. Donc, on va se retrouver, chers amis, la semaine prochaine avec Nathalie pour la suite de cette méthode Feldenkrais. Bonsoir.
Merci, bonsoir.
Réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel. Pour votre émission du jeudi soir de 19 à 20h, c'est Judaïsme Pluriel.